Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Et l'invité de Pluriel est Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, candidat à un deuxième mandat dans le cadre des élections législatives. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, Éric Coquerel, vous avez été élu pour la première fois en 2017. Nous allons parler tout à l'heure de votre projet et de celui de la NUPES. Mais d'abord, quel bilan faites-vous de votre action au niveau local? De quelle manière avez-vous agi durant ces 5 ans pour les habitants de votre circonscription qui vivent à Saint-Ouen, Épinay, Lille-Saint-Denis et dans le sud de Saint-Denis?
Écoutez, j'ai essayé de défendre au niveau national, j'allais dire, leurs préoccupations, leurs intérêts, qui sont ceux d'une population de cités et de quartiers populaires. Donc à la fois la question de l'égalité, la question de la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient sociales, qu'elles soient en fonction d'une couleur de peau, en fonction d'une religion. Et puis également, j'allais dire, l'accès à des droits fondamentaux. Je pense au logement, je pense aux services publics qui ont été mis à mal par 5 ans de macronisme et face auxquels j'ai essayé de mettre en place un mandat de résistance et de mobilisation. Voilà un peu la manière dont j'ai essayé d'œuvrer.
Alors, au premier tour de l'élection présidentielle, les habitants de la Seine-Saint-Denis ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs déçus par le fait qu'il n'ait pas été élu président de la République? Est-ce qu'il y a vraiment une chance qu'il devienne Premier ministre ou bien c'est un slogan de campagne destiné à mobiliser les électeurs pour avoir une opposition plus forte à l'Assemblée?
Écoutez, effectivement, il y a 55% des électeurs dans ma circonscription ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Au premier tour de l'élection présidentielle, c'est très important, c'est 16% de plus qu'en 2017. Et évidemment, ils ont été, comme beaucoup de gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, d'autant plus déçus, c'est que dans nos circonscriptions, tout cela est très majoritaire. Non, c'est pas de la propagande quand nous disons que nous pouvons être majoritaires. C'est parce que tout simplement, les sondages nous mettent en tête et que nous avons effectivement une chance face au macronisme d'envoyer plus de 287 députés à l'Assemblée, qui nous rendraient majoritaires, qui à partir de là placerait Emmanuel Macron dans l'obligation de désigner le chef de l'opposition, enfin en tout cas le chef de la nouvelle majorité comme Premier ministre, donc Jean-Luc Mélenchon, et surtout, au-delà du rôle de Premier ministre, d'appliquer notre programme, c'est-à-dire d'un programme de partage des richesses, de partage du temps de travail, de planification écologique, de retour des services publics, tout ce qui a fait la force de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, auquel maintenant se sont associés la plupart des partis de gauche, c'est-à-dire le Parti Socialiste, Europe Écologie et le Parti Communiste.
Est-ce que le programme de la NUPES, qui contient des centaines de propositions, est finalement une copie du programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle?
Ça en reprend les grandes parties. En tout cas, ça en reprend les éléments, j'allais dire, de rupture. Avec le système actuel du capitalisme financiarisé, ça soit le SMIC à 1500 euros net, la retraite à 60 ans, la question d'assurer pour les jeunes étudiants au lycée professionnel un revenu garanti à 1063 euros, le prix du logement est trop élevé. Beaucoup de gens se retrouvent à vivre dans des logements absolument indignes, anormales par rapport à un besoin fondamental qui est celui de se loger à des prix corrects et de manière digne. Et on sait que tout ça est dû au fait que, par exemple, sous 5 ans d'Emmanuel Macron, on n'a construit jamais aussi peu de logements sociaux dans le pays. On se retrouve devant des projets en rue, c'est-à-dire d'aménagement du territoire, de l'urbanisme, où les gens qui vivent actuellement dans nos circonscriptions sont forcés de vivre, d'aller plus loin de leur lieu de travail, tout simplement parce que le logement est trop cher. Et donc, par exemple, ça, c'est au cœur d'un des aspects du programme de la Nouvelle Union Populaire. Et c'est vraiment ce que moi je souhaite mettre au cœur de mes préoccupations dans les 5 ans à venir.
Alors, il y a quelques jours est né le Parlement de la Nouvelle Union Populaire. De quoi s'agit-il? Quel sera son rôle si vous obtenez la majorité au second tour des législatives?
On ne souhaite pas que la Nouvelle Union Populaire soit juste une addition d'étiquettes politiques, de partis politiques. c'est nécessaire, les partis politiques sont nécessaires à la démocratie. On est très satisfait que sur un programme de rupture, les différents partis de gauche nous aient rejoints, mais on souhaite conserver le caractère d'application citoyenne qui a été celui de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, qui s'incarnait vis-à-vis de ce Parlement de l'Union populaire dans lequel on retrouve des artistes, dans lequel on retrouve des animateurs de syndicats, d'associations, de personnalités, et qui pourraient jouer un rôle, on va dire, le rôle que doit jouer un Parlement vis-à-vis d'un mouvement, c'est-à-dire à la fois de force de proposition, décisionnelle pendant les 5 ans à venir.
Quelles seront les premières mesures prises par la NUPES en faveur du pouvoir d'achat si vous arrivez aux responsabilités avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre ?
Eh bien, que ce soit à travers des décrets, parce que certaines choses peuvent se passer par décret ou une loi d'urgence sociale, ce que nous comptons mettre en place, c'est le SMIC à 1500 euros net, c'est la retraite à 60 ans, c'est des revenus, des minimums sociaux portés au niveau du seuil de pauvreté, soit à 1063 euros. Le blocage des prix qui nous semble absolument nécessaire. Vous avez vu comme moi que l'inflation est en train d'exploser à plus de 5%, donc il faut bloquer les prix des produits de première nécessité, de l'énergie, tout un ensemble de choses qui permettraient à la fois de doper la consommation populaire et également de partager les richesses. Ça veut dire qu'à côté de ça, il faudrait un projet de loi de finances rectificative, c'est-à-dire qui rectifie les projets de loi de finances votés fin 2021, par exemple pour à nouveau rétablir l'ISF, rétablir un impôt sur les héritages des gens les plus fortunés, de façon à ce qu'on ait à la fois des recettes supérieures pour l'État, mais à la fois une plus grande égalité en termes fiscaux.
Vous, à titre personnel, si vous êtes réélu député et membre d'une nouvelle majorité, quels seront les sujets sur lesquels vous vous investirez en priorité ?
Il y a deux solutions. Soit on est majoritaire, et dans ces cas-là, on sera appelé à gouverner le pays. Donc je ne sais pas si je serai appelé au gouvernement. Je pense que si c'est le cas, ça sera très certainement sur ce que j'ai fait pendant 5 ans. J'ai été plus particulièrement lié aux questions de finances et d'économie. Et sinon, si on n'est pas majoritaire mais qu'on a la plus forte opposition, vous savez que traditionnellement, la présidence de la commission des finances revient à l'opposition. Je pourrais être appelé par exemple à jouer ce rôle, c'est-à-dire travailler sur toutes les questions de fiscalité, d'économie sociale. À côté de ça, il y a des sujets qui me tiennent au cœur, que j'avais commencé à développer dans ce mandat. Il y a notamment la lutte contre le trafic de drogue, qui passe, à mon avis, par une régularisation, légalisation du commerce du cannabis, parce qu'on s'en sortira pas autrement sous contrôle de l'État, mais aussi à un retour à la police de proximité, davantage d'officiers de police judiciaire. Donc il y a un ensemble de mesures qui me semblent absolument fondamentales, en plus de la question du logement dont j'ai parlé tout à l'heure.
Vous avez évoqué le fait que vous pourriez devenir ministre si Jean-Luc Mélenchon devient chef du gouvernement. À la lumière de ce qui s'est passé durant ces 5 dernières années avec Emmanuel Macron, comment doivent agir les ministres ? Est-ce qu'ils doivent avoir une forme d'exemplarité dans leur train de vie, dans la façon de travailler ? Est-ce qu'ils doivent écouter l'opposition ? Est-ce qu'ils doivent rendre compte aussi de leur action ? Est-ce que le gouvernement doit se décider aussi dans une forme d'opacité comme ça se fait habituellement, ou bien est-ce qu'il faut que tout soit un peu plus ouvert ?
Ah ben clairement, on ne peut pas vouloir transformer le système en reproduisant les défauts. Donc déjà, un gouvernement, il est là pour appliquer un programme qui est majoritaire, ça c'est la première chose. Et j'allais dire avec effectivement des ministres qui restent avant tout les militants au service d'un programme politique. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, vous ferez remarquer que c'est ce qu'on a essayé de faire en tant que député pendant ces 5 années passées, et c'est ce qu'il faudrait que nous fassions si demain nous gouvernions le pays, que je sois ou pas au gouvernement, enfin en tout cas avec tous ceux qui seront appelés à le faire. C'est-à-dire au service de l'intérêt général, au service de la population et non pas au service d'intérêts particuliers, à commencer par ceux des possédants. Ça a été ça les 5 ans de macronisme. C'est-à-dire d'abord avantager les plus grosses fortunes. Ce qui a été la marque, d'un des quinquennats les plus inégaux de la Ve République. Pour nous, pour notre part, moi j'imagine un gouvernement qui soit réellement au service du peuple et qui donc est incarné, y compris par des ministres qui, avant leur prise en fonction, étaient un peu comme tout le monde, c'est-à-dire travaillaient, étaient salariés, travaillaient dans les usines. Enfin, je pense qu'il faut vraiment avoir quelque chose qui ressemble, un gouvernement qui ressemble à la population qu'il est censé représenter.
Éric Coquerel, si la gauche l'emporte aux législatives, vous allez être confronté à une première urgence, c'est la crise à l'hôpital. Est-ce que vous parviendrez à trouver une solution rapidement pour éviter une rupture de soins dans les hôpitaux cet été, puisque avec le départ en vacances des soignants, on risque de fermer les urgences de beaucoup d'hôpitaux?
Absolument. Donc ça veut dire que déjà, on met en place un moratoire de la fermeture des lits. On envoie un autre signal. La deuxième chose, c'est que nous sommes pour recruter dans les 5 ans à venir 100 000 soignants dans les hôpitaux. Recruter 100 000 soignants, ça veut dire qu'il faut mieux les payer, il faut mieux les valoriser. Ne serait-ce que par exemple, et ça peut être fait rapidement, pour que les gens qui sont partis de l'hôpital, hein, c'est par malheureusement c'est par dizaines de milliers depuis ces dernières années, aient envie d'y revenir. Voilà, je pense que ça sera une des premières mesures à venir. Donc il commence par des mesures budgétaires. Je pense qu'il faudra voter très rapidement un projet de loi de finances sociales rectificatives pour permettre de donner tout de suite des moyens à l'hôpital et envoyer un signal.
Éric Coquerel, il y a de très nombreux emplois non pourvus, je pense notamment à la restauration. Est-ce qu'il faut faire venir des travailleurs d'autres pays ou bien régulariser les étrangers qui sont actuellement sans papier en France et qui ne peuvent pas travailler légalement?
Commençons par régulariser tous ceux qui sont sans papier. Parce que s'ils travaillent aujourd'hui, c'est qu'en fait, en réalité, on le sait, nous avons besoin de ces travailleurs. Et la seule raison pour laquelle ils ne sont pas régularisés, c'est que ça permet souvent à un système d'abaisser le coût, ce qu'ils appellent le coût du travail. On appelle ça le prix du travail, c'est-à-dire d'embaucher des gens qui, à moindre coût, ces gens-là en souffrent en premier lieu, mais tout le monde en souffre parce que ça abaisse, j'allais dire, le niveau normal d'embauche en termes de salaire, en termes de qualification, en termes de cotisation. Donc déjà, ça commence par régulariser toutes les travailleuses et les travailleurs sans papier, ce que nous avons mis dans notre programme.
Éric Coquerel, autre dossier prioritaire pour un gouvernement de la nouvelle Union populaire, c'est l'éducation. Il y aura donc un nouveau ministre de l'éducation chargé de préparer cette rentrée. Est-ce que vous aurez les moyens techniquement de recruter davantage d'enseignants, de mettre fin au système de Parcoursup dans les semaines et les mois qui viennent?
Vous avez raison de dire que l'éducation nationale a été cassée, saccagée par 5 ans de macronisme. Pas que. Malheureusement, les gouvernements précédents ont aussi apporté leur lot ont cotisé malheureusement aux suppressions du nombre d'enseignants, etc. Bon. Donc tout ne pourra pas se faire en quelques mois, chacun le comprendra. En 5 ans, nous sommes pour recruter 190 000 personnes dans l'éducation, des enseignants, mais aussi des personnels, médecins scolaires, infirmières scolaires, ce qu'on appelle les CPE, c'est-à-dire toutes les personnes d'encadrement, et ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Maintenant, là encore, je pense que si on revalorise rapidement le métier d'enseignant, par exemple, en commençant par dégeler le point d'indice des fonctionnaires, en créant un corps d'enseignants remplaçants, qui sont un des gros problèmes, de nos circonscriptions, je crois qu'on peut agir assez vite pour faire revenir là encore des enseignants qui sont partis et pour essayer d'améliorer la situation sensiblement dans les mois à venir. Clairement, il faudra les 5 ans à venir pour, faire face aux dégâts qui ont été celui d'un ministre comme Blanquer. Mais je pense qu'on peut envoyer des signaux assez vite.
Je voulais vous poser aussi une question sur la campagne électorale pour ces législatives. On a l'impression finalement qu'elle n'est pas véritablement à la une de l'actualité. Quel regard portez-vous sur cette campagne qui semble un peu atone?
Elle n'est pas atone de notre côté, mais il est clair que je pense que le système, le macronisme, a compris qu'il a intérêt à finalement très peu mettre les thématiques principal de la campagne en débat public. Je pense à ce qui nous revient tous les jours quand on fait campagne, la question du pouvoir d'achat, la question du logement, la question des services publics, et que donc tout est fait un peu pour noyer le poisson, pour noyer, les intérêts, ce qui peuvent être les objectifs principaux de cette campagne, dont celui, par exemple, que nous pouvons être majoritaires, et qu'il faut le répéter, si nous sommes majoritaires demain, c'est le programme de la nouvelle Union populaire qui sera appliqué, pas le programme d'Emmanuel Macron. Il faut faire avec, et ça c'est notre force militante qui le permet, on est vraiment déployé partout dans le pays. Et je crois, j'espère, que entre le décalage entre ce qu'on voit dans les médias, les thématiques dans les médias, et la vie réelle, les gens vont comprendre l'importance de cette élection législative. En tout cas, moi, c'est ce que je retire comme enseignement de la campagne qui est la nôtre aujourd'hui.
Merci Éric Coquerel. Je rappelle que vous êtes député sortant de la première circonscription de Seine-Saint-Denis et candidat de la nouvelle Union populaire à un deuxième mandat dans le cadre de ces élections législatives. Bonsoir.
Merci, au revoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.